Trainville PM. Politique.
On va commencer à siéger le 27 novembre. On est pressé de se mettre au travail. J'ai mandaté le ministre des Finances pour regarder ce qu'on est capable de faire avant Noël, à quelle date vont s'appliquer ces baisses fiscales. Notre position est claire concernant le crucifix, on le garde. Moi, je vais être ouvert en général, mais en même temps, je veux que vous compreniez que j'ai été élu avec un certain programme, puis dans mon programme, on garde le crucifix.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
On a compris qu'on avait de la laïcité à deux vitesses, finalement. Paul Journet, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste à la presse. Carl Bélanger, consultant en communication et stratège politique. Bonjour, Carl.
Salut.
Parlons de tout d'abord, on va commencer par François Legault qui s'en va à Gatineau cet après-midi.
Oui, il s'en va à Gatineau pour visiter les sinistrés. Puis c'est pas seulement une visite de courtoisie là, pour montrer l'empathie du premier ministre. Selon M. Legault, il y a un problème dans le versement de l'aide. Lui, ce qu'il soutient, c'est qu'il y a une grande bureaucratie qui fait en sorte que les gens attendent longtemps pour recevoir leur chèque. Puis peut-être une chose qui est tout aussi pire, c'est qu'ils ne savent pas exactement combien ils vont recevoir. Donc, tu vois que certains ont perdu même leur toit. Littéralement, le toit s'est envolé. Ils ne savent pas combien d'argent ils vont recevoir ni quand, ce qui est un gros problème. Donc, M. Legault va aller sur place et il est possible qu'il fasse une annonce en ce sens-là. Il va être accompagné de la députée locale libérale Maryse Gaudreau. Donc, c'est une preuve de classe. Là. Puis habituellement, c'est dans la coutume d'inviter la députée locale, même si elle n'appartient pas à ton parti.
Et on dirait qu'on... J'allais juste ajouter, Carl, on dirait qu'on n'apprend jamais de fois en fois. Souvenez-vous, aux inondations du Richelieu, il y avait eu des problèmes dans la façon dont on remboursait les personnes qui avaient été victimes. Là, on s'est dit, on a appris, ce sera plus efficace dans l'avenir. Surviennent les inondations, pas du printemps cette année, mais de l'année passée.
En Mauricie, entre autres, puis à plein d'endroits comme ça.
Dans le secteur de Rigaud, entre autres. Aussi, il y a des gens qui ont été à l'hôtel pendant plus d'un an. Puis encore là, c'est long. On dirait qu'on ne voit pas l'heure d'aboutir dans ce genre d'affaires-là. Donc, et quand la machine, la force d'inertie de la machine, on dirait, là, elle est puissante, n'est-ce pas? T'allais ajouter quelque chose?
En Ottawa, ici, les gens sont bien contents de voir que la première visite officielle du premier ministre après son assermentation est ici. Les circonstances, évidemment, sont tristes, mais c'est un signal important parce que longtemps, l'Outaouais se considérait un peu laissé pour compte, prise pour acquise par le Parti libéral. Et c'est un peu un signal que la CAQ envoie, qu'on va prendre l'Outaouais au sérieux. On a trois députés et on va se présenter lorsqu'il y aura un besoin.
Deux autres nouvelles qu'on a apprises, Mathieu, aujourd'hui. Premièrement, il va y avoir une courte session cet automne. Donc, l'Assemblée nationale va siéger à partir du 27 novembre, probablement deux semaines. Ça laisse pas beaucoup de temps avant que ça siège, donc d'ici les cinq prochaines semaines, pour écrire des projets de loi, les déposer et les étudier. Je sais pas si on va réussir à adopter quelque chose avant la fin, mais bon, c'est normal. C'est le calendrier qui veut cela. Par contre, ce qu'on pourrait voir avant la fin de l'année, c'est une mise à jour économique, voire un mini-budget. Et ça serait nécessaire, entre autres, parce que si M. Legault veut aller de l'avant avec les mesures fiscales qu'il a promises, remettre de l'argent dans les poches des familles, entre autres peut-être taxes scolaires, ben ça, il faut là, qu'il y ait un énoncé, une décision là, du ministre des Finances, une mise à jour économique. Donc ça, on risque de voir ça.
Puis on apprenait aussi, on l'entendait tout à l'heure dans l'extrait sonore, le crucifix ne bougera pas de l'Assemblée nationale.
Non, ça veut dire que si la tendance se maintient, et Dieu quelle tendance à se maintenir pas mal, on adopterait une loi sur la laïcité sous un crucifix. Tu as dit laïcité à deux vitesses tantôt. En fait, c'est une catho-laïcité, ou pour le dire de façon plus directe, c'est une incohérence totale. Mais à la décharge de la coalition Avenir Québec, ils ne sont pas le seul parti à errer en ce sens-là. Même chose avec le Parti québécois, même chose avec les libéraux. Pourquoi? En gros, parce qu'ils ont peur de l'opinion publique. Ils ont peur de passer comme étant les fossoyeurs d'un héritage. Et ils invoquent l'argument complètement bidon de l'objet patrimonial. Je veux bien que le crucifix soit un objet patrimonial.
On ne demande pas de le mettre dans le feu, là,
mais
non plus.
C'est justement pour ça que tu le mets. Ouais. À l'Assemblée nationale, il y a des corridors avec des présentoirs pour les objets patrimoniaux, les objets qui appartiennent à l'histoire. Fait que ça aurait été un argument pour le retirer, pas pour le mettre. Encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est pas juste la CAQ qui erre en ce sens-là. Et la seule façon de dénouer l'impasse, ce serait que ce soit réglé par le bureau de l'Assemblée nationale, par les élus. Donc, il n'y a aucun parti qui aurait apporté à lui seul l'odieux de la décision. On dirait que c'est l'Assemblée nationale qui a agi d'une seule voix. Et il me semble que ça serait la moindre des choses si tu demandes à des gens de pas exprimer leurs convictions religieuses dans leurs habits, là, s'ils incarnent l'autorité coercitive de l'État. Mais la moindre des choses, c'est que l'État donne l'exemple.
Là, on est dans les mêmes sphères également quand on parle des palais de justice, parce qu'on veut imposer une laïcité des juges. Et puis, oui, puis on a des crucifix dans les palais de justice, justement.
Tu sais, on parle de symbole d'autorité. Là. Y a-t-il quelque chose de plus symbole d'autorité qu'un palais de justice? Et là, le crucifix sera là. Sans problème, alors qu'on veut interdire à des gardiens de sécurité de porter une kippa.
Ouais.
Rien à ajouter là-dessus. Ouais.
Non, ben je veux enchaîner rapidement avec quand même le Conseil des ministres qui a été annoncé hier. Là, quelques réactions. On a eu la chance de questionner M. Legault, mieux comprendre certains de ses choix qui sont plus controversés. À commencer par la ministre des Affaires autochtones, Sylvie Damour, controversée parce qu'elle ne parle pas anglais. Et ça part très mal, entre autres, avec les cris. Moi, je me demandais quelle connaissance est-ce qu'elle a des Autochtones. Bien, en fouillant un peu, on m'indique que Oka, c'est quand même dans sa circonscription. Donc, elle a une certaine connaissance. Ce n'est pas une experte, mais elle a une certaine connaissance. Et on dit aussi que son ouverture, ses qualités d'écoute, ça pourrait l'aider dans le dossier. Mais on est quand même loin de Jeffrey Kelly, le ministre libéral des Affaires autochtones, qui, lui, a vraiment maîtrisé le dossier sur le bout de ses doigts. Par contre, il faut dire que sous le gouvernement péquiste, il y avait Élisabeth Larouche, là, qui avait peut-être moins d'expérience de Sylvie Damour. Donc, donnons-lui la chance. Deux autres choix aussi qui ont attiré l'attention. L'environnement, Marie-Chantal Chassé, qui n'a pas particulièrement, elle non plus, d'expérience ou d'expertise là-dedans. Mais,
et qui est-elle? On la connaissait. Moi, honnêtement, non, je ne la connaissais plus, pas.
C'est celle qui a battu Pierre Moreau. Ouais. On la connaît pas beaucoup sinon, mais c'est déjà un exploit du point de vue de la CAQ. Et c'est une entrepreneure. Elle a une formation en ingénierie. Mais de toute façon, là, peu importe qu'elle soit, peu importe ses qualités individuelles à Mme Chassé, ce dont elle va avoir besoin avant tout, c'est de M. Legault. Parce que l'environnement, quand tu es ministre de l'Environnement, tu es toujours celui qui emmerde tes collègues. Tu emmerdes les transports, tu emmerdes la forêt, tu emmerdes les ressources naturelles. Donc, il y a besoin d'avoir un arbitrage au Conseil des ministres. Et qui est l'arbitre en chef? M. Legault. Donc, ce sera à M. Legault de se lever pour montrer que l'environnement, qui l'a lésiné durant ses années dans l'opposition et durant la campagne électorale, bien que ça le tient à cœur.
D'ailleurs, un des sujets sur lequel elle va être interpellée, Infoman nous le rappelait hier, c'est le dossier de Saint-Adolphe-d'Howard. Tous les partis politiques se sont commis sur la poursuite du projet de ligne à haute tension dans le secteur là-bas.
C'est vrai.
Si on continuait ou non, puis on sait qu'on a vu, là, il y a eu différents articles, entre autres sur le dynamitage illégal fait par Hydro-Québec, les déversements de boue qui sont arrivés dans des lacs. Bonne chance.
Ça, c'est les lendemains difficiles quand tu es nommé ministre.
Exactement.
Après l'euphorie, tu réalises que il y a ça sur ma table de travail.
On a parlé de ça durant la campagne.
Puis peut-être, dernier ministère, les affaires municipales. Il y en a qui voyaient Chantal Rouleau là. Chantal Rouleau, qui est une des deux seules élues caquistes sur l'île de Montréal, et elle vient elle-même du monde municipal. On le sait. Par contre, il y a mon collègue Denis Lessard qui remarquait avec beaucoup de pertinence ce matin que si elle avait été ministre des Affaires municipales, je ne suis pas sûr que ça se serait bien passé avec Valérie Plante, la mairesse de Montréal, parce qu'on le sait, c'était des adversaires politiques. Donc, peut-être que François Legault a joué de prudence en ne lui donnant pas ce ministère et en en faisant seulement la ministre déléguée au transport. Donc, elle pourra quand même garder un œil sur le plan de la CAQ pour les transports collectifs, puis aussi garder un œil sur le ministre des Transports, François Monardel, qui a l'air d'oublier que dans le transport, il y a aussi le transport collectif. Là, il semble vraiment ne penser qu'aux voitures, selon ses dernières déclarations.
Et sais-tu qu'est-ce qui fait jaser dans les différentes députations et les ministères régionaux? Entre autres, en Estrie, vous savez que l'Estrie, à part le comté de Sherbrooke, a élu des députés de la CAQ.
Oui.
Et le ministre responsable de l'Estrie, François Bonardel, hors sa circonscription, n'est pas en Estrie.
Non, mais est aux portes de l'Estrie.
Oui, est aux portes, mais pour les maires de la plage, je peux dire qu'il n'est pas dans la région non plus.
Comme je ne parlerai pas avec toi, Mathieu, sur l'Estrie.
Non, effectivement.
L'autre point d'interrogation, c'est qu'on voit une députation caquiste qui n'a pas beaucoup d'expérience de gouvernance. Et le seul député qui a siégé comme ministre, à part Marguerite Blais et François Legault, c'est Jean-François Simard dans la région de Québec. Et lui a été exclu du cabinet. C'est assez surprenant.
On se reparle dans quelques instants. On va discuter de ce qui se passe à Ottawa. Avec Carl, on va parler de l'affaire du vice-amiral Norman.
c'est une affaire qui a rebondi aux communes toute la semaine et qui va faire des vagues pendant certainement tout l'été, juste pas de même pendant les élections. Écoute, faire une histoire courte, en janvier 2017, le vice-amiral Mark Norman, qui était numéro 2 de l'armée, a été démis temporairement de ses fonctions suite à une enquête qui visait à déterminer si Mark Norman avait divulgué des documents confidentiels concernant la stratégie de construction navale du gouvernement fédéral. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, il y en a plusieurs qui poussaient pour annuler la commande du Astérix. Le Astérix, c'est un navire ravitailleur qui avait été commandé à la Davy, un contrat de 700 millions de dollars qui avait été donné par Stephen Harper à la Davy juste avant les élections. On sait que la Davy, c'est dans le comté de Stephen Blaney, un comté conservateur, la région Québec, beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent. Or, quand les libéraux sont arrivés, la compagnie Irving, qui est dans les provinces atlantiques, mm-hmm. chantier à Halifax, a sûrement fait des pressions, envoyé une lettre au gouvernement, ministre de la Défense, différents ministres du gouvernement Trudeau. Et là, les partis libéraux, le gouvernement Trudeau a mis les pieds sur le frein. Et on a montré l'opposition au monde du doigt Scott Bryson, qui est président du Conseil du Trésor, qui serait un proche de Irving. Il poussait pour une révision du contrat. Il y a eu des fuites sur ce qui se tramait au cabinet. Ça s'est su, le gouvernement n'était pas content parce que ça contrecarrait leur plan. Ils ont demandé à la GRC de faire enquête et c'est Mark Norman qui a été ciblé. Et en mars 2018, Norman est finalement accusé d'abus de confiance. Et là, il y a plusieurs affaires qui ne marchent pas là-dedans, notamment le fait que Mark Norman, il a pas fait d'argent avec ça. Lui, il n'avait aucun intérêt financier. Ce qu'il voulait, c'était un bateau. Puis l'Astérix a été ravitaillé. Là, les conservateurs ont commencé à mettre de la pression. Toute la semaine, ils ont été là-dessus à la période des questions. Mercredi, ils ont posé pas moins de 25 questions à Justin Trudeau. On a fait un petit montage pour vous donner un peu ce que ça donnait.
Pourquoi le premier ministre cache-t-il des documents qui pourraient être pertinents? Pourquoi refuser à ce distingué officier le droit à une défense entière et équitable?
Comme vous savez bien, il serait inapproprié pour moi de commenter cette affaire alors qu'elle est devant les tribunaux.
Je crois que vous vous souvenez, monsieur le président, du scandale des commandites. Paul Martin, alors premier ministre, a levé la confidence du cabinet pour donner l'information aux tribunaux pour faire l'enquête. Le premier ministre a plein pouvoir là-dessus. S'il veut aider Norman, il peut le faire.
Il serait inapproprié pour moi de commenter cette affaire.
On ne demande pas des commentaires qui livrent des informations, sinon on va penser qu'il veut protéger ses petits amis libéraux, qui fait de la magouille, puis qui fait passer ses intérêts et les intérêts de ses amis avant la justice. Monsieur le Président, que le premier ministre agisse pour le vice-amiral Norman.
Il serait inapproprié pour moi de commenter cette affaire alors qu'elle est devant les tribunaux.
Bon, on a compris, finalement. Il n'y aurait pas de réponse là-dessus.
Il n'y aura pas de réponse là-dessus. Puis
Norman, là, il était-tu là aux réunions où ça se jasait?
Mais non, c'est ça le problème. Bon. Et des fuites au Conseil de ministres, premièrement, des fuites, là, puis Paul pourrait confirmer, puisqu'il est très bien branché dans ces milieux-là. Mais ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps, puis on n'enquête jamais. Puis Mark Norman, ben dans son cas, évidemment, il ne participait pas aux réunions, il n'est pas membre du Conseil des ministres. Et donc,
il pouvait avoir de l'information quand même.
Mais oui, mais s'il y a de l'information, c'est quelqu'un d'autre qui l'a donné. Lui, il n'est pas là. Donc, si c'est si confidentiel que ça, puis que c'est un secret du Conseil des ministres, là, il y a des points d'interrogation qui sont soulevés. Écoutez, faut comprendre que c'est de la grosse argent. Okay, le programme de construction navale, juste pour les frégates, là, c'est 60 milliards de dollars. Puis c'est Irving qui est maître d'œuvre de ça. Dans tout le programme de construction navale, c'est Irving et C-SPAN qui se partagent le gros des contrats. Et la Davy n'a eu que des miettes. Mais ce qui va pour la Davy, par exemple, ouais. C'est que ces miettes-là, ben elle les livre. Hein? Le Astérix ouais. est en opération. Alors que du côté d'Irving et du côté de C-SPAN, les navires, on les attend toujours. Et là, le procès de Mark Norman va commencer au mois d'août 2019. Ça, c'est quelques semaines avant le déclenchement des élections. C'est-à-dire que le procès aura lieu pendant la période électorale. Et du côté de la défense, on demande déjà à ce que le gouvernement divulgue des documents confidentiels. Donc, ça pourrait faire mal au Parti libéral. C'est ça qu'on sent du côté des conservateurs. On sent qu'il y a du sang dans l'eau. On tente d'aller chercher de l'information.
Paul, t'allais rajouter quelque chose?
Pour la Davy, c'est tellement important d'avoir accès à ces gros contrats parce que, en les attendant, leur main-d'œuvre, qui est une main-d'œuvre experte et difficile à chercher, ils la perdent. Puis une fois que tu l'as perdu, c'est difficile à la ravoir.
Mais c'est un chantier. Puis c'est un chantier qui vivote depuis.
Mais oui, moi, je me souviens plus combien de fois on en a parlé dans les dernières années. Ça revient toujours dans l'actualité.
Parlons des boissons sucrées aussi, oui. Carl, parce que ça aussi, c'est abouti aux communes, mais il se passe pas grand-chose.
Il se passe pas grand-chose. On se rappelle qu'en mars dernier, il y avait une adolescente de 14 ans, Athéna Gervais, qui était décédée suite à la consommation de ces boissons alcoolisées sucrées qui ont un taux d'alcool très élevé. Et les parlementaires fédéraux avaient déclenché une étude d'urgence en comité. Alors, le comité a remis un rapport avec une quinzaine de recommandations. Et là, le gouvernement vient de répondre au rapport. Et il n'y a pas vraiment de mesure immédiate, mais on va aller dans la consultation sur l'étiquetage et la promotion de l'alcool en général, donc rien de très ciblé. Va sans dire que l'opposition est déçue. On peut écouter la néo-démocrate Brigitte Sanssouci et le bloquiste Luc Thériault.
Allez, Gervais, là, il vient leur dire, là, écoutez, ma fille est morte, là, puis vous avez les moyens de faire en sorte qu'il n'y en ait pas d'autres jeunes qui meurent comme elle, puis consulte. Je comprends pas.
Ce qui était une urgence quasi nationale qui amenait à un décès, là. Colin, on les protège-tu nos jeunes ou on les protège pas?
Fait que, disons que pour l'instant, là, la réponse du gouvernement n'est pas satisfaisante pour l'opposition, puis certainement pas pour les parents de la jeune Gervais. La seule chose que le gouvernement dit jusqu'à maintenant, c'est qu'il s'engage à réduire la teneur en alcool de ses boissons, mais il dit pas un mot sur la quantité de caféine et la quantité de sucre, qui sont évidemment des éléments qui masquent un peu l'alcool dans ces boissons-là. C'est ce qui rend ça très attrayant, particulièrement chez les jeunes.
Il nous reste même pas 30 secondes pour parler de l'histoire de Alliance Magnésium. Finalement, on parlait de l'interdiction de l'amiante pour de bon, puis on a trouvé quand même de l'argent pour traiter les résidus.
Écoute, on a parlé hier, le Canada interdit l'amiante, sauf que le lendemain de l'interdiction, Ottawa débloque 12 millions de dollars pour Alliance Magnésium. Ça s'ajoute aux 31 millions qui viennent de Québec qui sont arrivés l'été passé. Donc c'est 53 millions de dollars des contribuables pour aller fouiller dans les résidus d'amiante. Puis on le rappelle, là, il y a jusqu'à 40% de fibres de chrysotile dans ces montagnes de résidus. On va fouiller là-dedans, mais ça risque de mettre ça en suspension dans l'air. Du côté de la santé publique, on n'est pas content. Il y a 17 directeurs de la santé publique au Québec qui ont écrit des lettres qui protestent cette décision-là. Le gouvernement fait la sourde oreille.
Carl Bélanger, merci beaucoup. Paul Journet également.
Merci.
Merci.
Et on vous retrouve la semaine prochaine avec Bernard. On parlera cannabis sur les réserves autochtones du Québec. Il y en a de disponibles. On y revient dans un instant.
Salut, c'est Jeffrey Soubrani. La fin de semaine, on est musique au 98.5. Pis pas n'importe laquelle. Le rock des années 70 à 2000. Pis on a même notre propre...